Bonjour à toutes et à tous, je suis Kimta de l'agence La Grande Ourse. Merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Un Poil du X en direct de notre agence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Célia Audent, UX stratégiste spécialisée dans la conception de jeux vidéo depuis maintenant plus de 15 ans. Elle a pu travailler dans les plus grands studios de jeux vidéo et a notamment contribué au succès du célèbre jeu Fortnite. Célia est également l'auteur du livre « Dans le cerveau du gamer » qui se positionne comme une base pour toute personne qui souhaite en apprendre plus sur l'UX dans les jeux vidéo, mais également comme une aide pour les petits studios et développeurs qui souhaitent savoir comment intégrer une démarche centrée utilisateur dans la conception de leurs propres jeux vidéo. Elle est considérée aujourd'hui comme étant une référence dans son domaine et c'est pour cela que nous avons le plaisir de l'accueillir pour ce nouvel épisode centré sur le thème de l'UX dans les jeux vidéo. Bonjour Célia.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va et vous ?
Ouais, ça va bien, merci.
Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et de partager votre expérience dans ce domaine si passionnant de l'UX.
Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Avant de commencer sur ce sujet, puis-je vous demander de vous présenter et de nous parler de votre parcours ?
Ok, pas de souci. J'espère, je vais essayer de faire ça assez court. Alors, moi, ma formation est en psychologie cognitive. J'ai un doctorat en psychologie spécialisé dans le développement cognitif que j'ai eu à Paris 5. Et après ça, je me suis orientée vers le privé. J'ai démarré d'abord dans le jeu éducatif. Et assez rapidement, je me suis orientée vers le jeu vidéo. Étant gameuse moi-même, hein, j'ai grandi avec les jeux vidéo. On jouait beaucoup aux jeux vidéo avec mes parents et aussi un petit peu avec mes cousins également. Et donc, ça faisait partie de ma culture ludique comme d'autres jeux, hein, comme les jeux de plateau ou des jeux d'extérieur. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée d'appliquer un petit peu mes connaissances en développement cognitif dans le jeu vidéo. On sait en psychologie que le jeu est très important pour le développement de l'enfant et aussi pour maintenir des bonnes capacités cérébrales quand on vieillit un peu. Et le jeu vidéo fait partie des jeux qu'on peut jouer. Alors évidemment, tous les jeux vidéo ne se valent pas. Hein. C'est un peu comme tous les livres ne se valent pas ou tous les films ne se valent pas. Mais le jeu vidéo est une activité intéressante dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'industrie du jeu. J'ai démarré chez Ubisoft à Paris, où je travaillais essentiellement avec le think tank, comme on appelle ça, Strategic Innovation Lab, pour essayer de voir comment le jeu vidéo peut apporter d'autres choses positives que le simple divertissement. Et puis, j'ai fini par m'orienter vers l'UX dans le jeu vidéo. L'UX, c'est une approche qui considère l'expérience utilisateur en premier. Donc, on cherche à satisfaire l'utilisateur pour les outils qu'on va créer pour ses utilisateurs. Mais dans le jeu vidéo, ce n'est pas un outil, c'est une forme d'art ou un divertissement en fonction de comment on veut l'aborder. Et donc, c'est le but de jouer à un jeu vidéo, ce n'est pas pour accomplir une tâche, c'est pour avoir du fun.
D'accord.
Et du coup, l'application de l'UX dans le jeu vidéo était intéressante pour moi parce que pour avoir une approche UX, on a besoin de comprendre comment l'être humain fonctionne. Alors, on regarde des choses comme l'ergonomie, par exemple. Quand on fabrique une chaise, on va réfléchir à l'ergonomie de la chaise pour que ce soit confortable pour l'être humain. Mais dans les jeux vidéo, c'est plutôt digital. Donc, on regarde plutôt l'ergonomie cognitive, comme on appelle ça. On veut faire en sorte que le jeu soit assez simple à prendre en main, assez facile à diriger, mais aussi on veut que le jeu soit amusant. Et donc ça, c'est de l'application des sciences cognitives dans le développement de produits, de jeux vidéo, en ce qui me concerne. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'UX, ou l'ergonomie, ou les facteurs humains. On utilise plutôt ce terme-là en français. Et donc je me suis spécialisée là-dedans. C'est comme ça, après, j'ai bougé chez Ubisoft Montréal, où j'ai travaillé là plus au cœur des jeux comme Assassin's Creed ou Watch Dogs ou Rainbow Six. Ensuite, j'ai bougé chez LucasArts aux États-Unis, où j'ai travaillé sur des jeux Star Wars. Et puis après, j'ai bougé chez Epic Games en Caroline du Nord. Je suis devenue directrice UX chez Epic au studio, donc j'ai travaillé sur plusieurs projets, y compris Fortnite, jusqu'en 2017, où je suis devenue indépendante et donc maintenant je suis consultante, surtout avec les jeux vidéo pour aider les studios à faire des jeux qui sont à la fois utilisables et fun, mais aussi éthiques, car l'éthique, c'est vraiment au cœur de l'approche UX. On met en avant l'humain en premier, bien avant les impératifs business. Et donc, toutes les questions d'inclusion, d'accessibilité et de monétisation éthique sont vraiment très importantes dans l'approche UX. Et c'est comme ça que je me suis aussi investi dans l'éthique dans les jeux vidéo et je cherchais à développer une charte éthique pour le jeu vidéo. Voilà. J'essaie de faire court, c'est raté,
Non, non,
mais ça donne
c'est
un
parfait.
petit aperçu de tout ça.
J'ai une question après qui va venir sur l'éthique. Donc, vous
Ouais.
avez un peu anticipé la suite du podcast.
Il n'y a pas de souci.
Du coup, je voulais vous demander pourquoi est-ce que c'était spécifique le fait que vous ayez choisi le domaine des jeux vidéo pour travailler dans l'UX?
Pas vraiment, non. C'est juste que bah, j'aime les jeux de façon générale. Les jeux vidéo en particulier, encore une fois, c'est quelque chose avec lesquels j'ai grandi. Si, la chose qui m'a un petit peu interloquée, c'est dans les années 2000, on va dire début 2000, j'écrivais pas mal d'articles dans des magazines comme Sciences Humaines ou Cerveau et Psycho, des articles de vulgarisation des sciences cognitives pour un public plutôt large. Et je voyais quand même déjà à l'époque hein, pas mal de parents qui étaient inquiets des jeux vidéo. Alors c'était plus au niveau de l'isolation ou de la violence à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la recherche sur les jeux vidéo. Donc j'ai regardé un petit peu la recherche académique sur les jeux vidéo et je me suis aperçue que bah, de façon générale, on ne retrouve pas les... Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire aussi attention à l'équilibre de l'enfant. Si on a un enfant qui joue constamment aux jeux vidéo sans jamais sortir et on s'aperçoit que ça affecte son sommeil ou son activité à l'école ou sa socialisation, évidemment qu'il faut, ce sont des alertes et qu'il faut prendre ça au sérieux. Mais de façon générale, jouer à des jeux vidéo ne présente pas plus de risques qu'une autre activité ludique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me pencher sur la recherche sur les jeux vidéo et j'ai commencé à écrire des articles pour communiquer aux parents et leur expliquer ce qui, ouais, ce qui, les bons aspects des jeux vidéo, parce que ça, on en parle beaucoup moins. Il y a quand même pas mal d'aspects positifs dans les jeux vidéo et comment limiter les aspects potentiellement négatifs qui peuvent être dus parfois, si les enfants utilisent le jeu vidéo comme échappatoire ou s'ils ont une utilisation un peu pathologique du jeu vidéo. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée aux jeux vidéo et j'ai fini par aller travailler dans cette industrie. C'est une industrie assez intéressante, c'est très créatif. Il y a beaucoup de métiers différents. On a bien évidemment des programmeurs et programmeuses, on a des artistes, on a des musiciens, on a des designers. C'est très très riche comme milieu. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont différents. Et c'est un milieu qui est très créatif et encore assez jeune, aussi un peu immature à cause de ça. Donc je trouvais ça intéressant de travailler dans ce milieu.
D'accord. Et du coup, comment avec tout ce monde vous faites pour travailler ensemble avec vos différentes spécialités?
C'est pas toujours évident, surtout que encore une fois l'industrie du jeu vidéo est relativement immature. Donc à part les grosses boîtes de jeux, il y a pas beaucoup de process qui sont bien intégrés. C'est encore un petit peu chaotique dans pas mal de studios. Donc c'est pas toujours évident de travailler ensemble, mais c'est un milieu de gens qui sont très passionnés. C'est des gens qui aiment le jeu vidéo. On est tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont des gamers, alors plus ou moins intenses, hein, mais on a tous cet amour du jeu vidéo, donc on se rejoint là et on a un but commun, c'est de sortir un bon jeu. Et on sait que c'est difficile, donc on essaye de s'organiser et de communiquer, mais c'est vrai que l'aspect des processus et des méthodologies sont encore assez balbutiantes. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que l'approche UX va aussi apporter un cadre qui peut aider à aller plus vite et trouver des solutions, déjà trouver où sont les problèmes plus rapidement et trouver des solutions. C'est assez difficile, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps de faire un jeu vidéo. Et comme l'utilisateur n'est pas passif, contrairement à si on regarde un film par exemple, s'il y a des moments où le film n'est pas très clair, on va peut-être décrocher un petit peu, mais le film continue d'avancer. Alors que dans un jeu vidéo, si le joueur ou la joueuse décroche un peu, le jeu vidéo n'avance plus. Donc c'est vraiment critique de s'assurer que les joueurs comprennent ce qui se passe et sachent quoi faire pour pouvoir découvrir le jeu et pouvoir avancer dans le jeu.
Très bien. Et par rapport aux équipes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre ce rôle de formatrice justement par rapport à l'UX qui est quand même un domaine nouveau et dont les process ne sont pas forcément bien encore intégrés dans les différentes entreprises ?
Oui, alors c'est un peu mon activité principale aujourd'hui en tant que consultante. J'interviens énormément dans les différents studios pour évangéliser. J'aime pas trop ce terme, mais je connais pas d'autres équivalents, mais pour évangéliser sur l'UX et ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent l'UX, mais le réduisent à l'interface utilisateur. Et l'interface, c'est important dans un produit. On veut que les gens comprennent ce qu'il y a sur l'interface et où cliquer, quoi faire. Mais l'UX, c'est bien plus large que ça. L'UX, ça englobe l'ensemble de l'expérience qu'un utilisateur ou une utilisatrice va avoir avec un produit et son écosystème. C'est-à-dire, si on réfléchit à... Disons que vous voulez acheter un nouveau téléphone. Votre expérience en tant qu'utilisateur va démarrer avec votre recherche sur quel genre de téléphone vous voulez avoir ou peut-être aux pubs que vous allez voir avec les différents téléphones qui vous sont proposés. Ensuite, vous allez en acheter un, vous allez le sortir de la boîte. Quelle est votre expérience pour la mise en place du téléphone ? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est prise de tête ? Ensuite, l'utilisation du téléphone en soi. Donc, on a l'interaction de l'utilisateur avec le produit lui-même. Mais peut-être que vous allez avoir un souci, vous allez devoir contacter le service consommateur. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Donc, c'est très, très large. Et beaucoup de studios de jeux vidéo, mais même au-delà du jeu vidéo, ne connaissent pas bien tous ces aspects-là de l'UX et le réduisent vraiment juste à l'interface utilisateur. D'accord. Donc, ça demande beaucoup de formation. Donc, je fais ça quand même pas mal dans les studios de jeux et aussi en dehors des studios de jeux pour les aider à comprendre tout ce que ça comporte et apporter cette méthodologie qui permet d'avancer plus vite et encore une fois, de faire en sorte d'améliorer le produit, que ce soit un jeu ou autre chose, pour satisfaire les utilisateurs.
D'accord. Et du coup, selon vous, quels sont les bénéfices du fait de prendre en compte tout ce process, toute cette démarche centrée utilisateur ?
Les bénéfices sont très clairs pour les utilisateurs eux-mêmes et elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte leur expérience à elles et eux, pas l'expérience du business ni l'expérience de l'équipe de développement. C'est les utilisateurs qu'on met au centre. Donc, pour les utilisateurs, normalement, c'est tout à gagner pour eux parce qu'ils vont, grâce à ça, ils vont avoir une meilleure expérience. Pour le studio et pour le business de façon générale, c'est aussi gagnant-gagnant parce qu'un utilisateur qui est content va utiliser le produit, va être satisfait du produit, va en parler autour de lui et donc ça fait aussi de meilleurs bénéfices. Donc c'est vraiment une approche gagnant-gagnant. On pense d'abord à l'utilisateur et on veut que l'utilisateur soit satisfait et satisfaite. Et grâce à ça, le produit, le jeu ou l'outil sera plus populaire et vendra mieux puisqu'il est bien et qu'il est satisfaisant.
Très bien. Et du coup, si je comprends bien pour vous, l'expérience utilisateur et sa prise en compte, c'est quelque chose qui est primordial dans la conception de jeux vidéo ?
Oui, à mon sens, c'est primordial pour la conception de n'importe quoi. Parce qu'on conçoit des choses pour des gens, on ne le conçoit pas pour nous-mêmes. Donc, si on ne prend pas en compte l'être humain avec ses capacités et ses limites, quand on conçoit quelque chose pour un être humain,
on passe à côté de l'essentiel de ce qu'on essaye de faire. Et pour les jeux vidéo, c'est la même chose. Si on fait un jeu vidéo pour que ce soit fun pour des gens, on n'est pas garanti que ce soit fun si on ne regarde pas ce qui se passe du côté des joueurs. Donc, l'approche UX, ça permet vraiment de vérifier que nos intentions de conception sont bien ce que les joueurs ressentent au final.
D'accord, très bien. Vous êtes passé par de la psychologie cognitive, mais selon vous, est-ce qu'il y a d'autres moyens, est-ce qu'il y a d'autres parcours possibles qui permettent du coup de permettre de travailler dans le domaine de l'UX dans les jeux vidéo?
Oui, il y a deux parcours principaux possibles pour intégrer, pour devenir un professionnel ou une professionnelle UX dans le jeu vidéo. J'ai tout un article de blog sur mon site celiaudan.com qui... Alors, il a été traduit en français par Google Translate, hein. C'est un peu approximatif, mais au moins vous avez toutes les informations là. Mais en deux mots, il y a deux parcours principaux. Soit on s'oriente vers du design UX, soit on s'oriente vers la recherche utilisateur. Et là, en fonction de là où on s'oriente, il va y avoir deux parcours différents. Pour être UX designer ou designer concepteur UX, il faut surtout avoir de la pratique. Il faut comprendre comment on design. Il faut connaître les guidelines et tous les principes de design, et notamment des principes de design UX. Donc, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, l'ergonomie et les facteurs humains. On a des règles et des lois qui ont été établies en fonction de l'être humain, comment l'être humain fonctionne et quelles sont ses limites, qu'il faut connaître pour pouvoir déjà au départ, quand on conçoit un environnement, partir sur de bonnes bases. Mais ensuite, il faudra toujours avoir cette approche qu'on appelle design thinking, où on a une approche itérative. Donc, c'est pas parce qu'on part avec des lois et des principes de base qui sont relativement fiables que ça va être suffisant. Il faut s'assurer que ce qu'on est en train de concevoir répond vraiment aux demandes des utilisateurs, et pour un jeu vidéo, que ce soit fun, satisfaisant. Donc, c'est une boucle itérative. Donc, il faut apprendre tout ça quand on veut devenir designer. Et il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme particulier. En revanche, il faut quand même connaître déjà la discipline et connaître tous les principes, toutes les lois de design UX afin de pouvoir les appliquer. Et il faut connaître les différentes méthodologies, savoir faire des wireframes, savoir itérer. Et donc, il faut avoir de la pratique, en tout cas, démontrer qu'on est capable de faire ça et d'avoir une approche centrée sur l'utilisateur et non centrée sur nos opinions. Pour rentrer dans le jeu vidéo en tant que chercheur ou chercheuse UX, donc de la recherche utilisateur, ça demande en général plus de formation académique, car on applique la méthode scientifique pour faire de la recherche. Hein. Même la recherche utilisateur, c'est pas fait pour trouver la vérité sur le monde, mais ça nécessite quand même une méthodologie rigoureuse qui prend du temps à appréhender, à comprendre, parce qu'on doit comprendre les biais humains et comment les contrôler quand on fait une expérimentation pour vérifier si les utilisateurs arrivent à utiliser un produit ou pas. Si on ne fait pas ça de façon rigoureuse, on ne peut pas vraiment trouver les bonnes réponses aux questions, on peut se fourvoyer. Donc, la méthodologie appliquée est vraiment très importante. Et donc, du coup, pour avoir une carrière en recherche utilisateur, en général, c'est quand même des gens qui viennent plutôt de la recherche académique. Alors, c'est pas nécessairement un doctorat, mais au moins un master. Et ce sont des gens qui ont déjà dirigé des recherches, ou en tout cas ont participé à l'élaboration de recherches en étant dirigé par un ou une chercheuse habilitée. Donc, c'est un petit peu plus académique, on va dire, comme parcours.
D'accord, très bien. Et pour vous, est-ce qu'il y a des similarités entre le fait de travailler en tant que UX designer pour des interfaces web versus sur des jeux vidéo?
Oui, c'est les mêmes compétences hein, qu'on demande. Après, le système n'est pas du tout le même. Encore une fois, sur les interfaces web, Ce qui va être important, c'est de comprendre les buts des utilisateurs. Ça va être un peu le même principe pour les jeux vidéo. Il faut comprendre quels sont les buts des joueurs. Mais il y a quand même tout un aspect qui est un peu différent dans le sens où, encore une fois, le jeu vidéo, ce n'est pas un outil, c'est quelque chose qu'on va utiliser, interagir avec pour s'amuser. Donc, il y a quand même toute une dimension un peu de jouabilité. Mais sinon, les principes sont les mêmes. Il faut juste bien connaître les différents jeux vidéo pour comprendre quelles sont les choses que les joueurs vont être déjà familiers afin de pouvoir utiliser ce genre de code qu'on a dans les jeux vidéo. Comme dans le web, on a des codes. Hein. Il y a certains boutons qui sont plutôt en haut à droite et d'autres qui sont plutôt en bas à droite. Donc, on a l'habitude de certaines configurations dans le web. Ben, c'est pareil dans le jeu vidéo en fonction du type de jeu. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Un jeu de rôle ne va pas avoir le même type de code ou de configuration qu'un jeu de tir à la première personne ou qu'un jeu de stratégie. Donc, il faut bien connaître les différents types de jeux et quels sont les codes et des choses qui sont familières pour les joueurs de ce genre-là. Donc, c'est surtout ça qui est la différence. Mais sinon, le métier en lui-même n'est pas foncièrement différent. Il est peut-être un peu plus restreint dans le jeu vidéo que dans d'autres industries. Dans d'autres industries, les UX designers commencent déjà par faire la recherche sur le terrain en regardant les utilisateurs, quels problèmes ils ont, et définissent l'outil en fonction du problème à résoudre pour les utilisateurs. Il y a moins cet aspect-là dans le jeu vidéo en général. C'est plutôt le game designer qui va définir le système et qui va définir quels sont les différents paramètres et quels qui vont être les différents éléments intégrés dans le jeu. Par exemple, on a des jeux où on va devoir confectionner des outils. Et donc, le game designer va nous dire, dans ce système-là, on va avoir un système de confection d'outils ou d'armes. Et donc, dans cette conception, dans cette confection, pardon, les paramètres vont être que un outil peut avoir au minimum, je ne sais pas moi, 2 ingrédients, au maximum 5. Et donc, c'est les game designers qui vont définir tous ces paramètres-là. Et après, ça va être plutôt les UX designers qui vont se pencher sur okay, comment on va représenter ça dans le jeu et faire en sorte que l'interaction soit à la fois simple, facile d'utilisation et aussi intéressante pour les joueurs. Donc, c'est un peu plus restreint, on va dire, dans le jeu vidéo, puisqu'il y a d'autres métiers autour et que le jeu vidéo, c'est une forme d'art. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas l'idée, c'est pas de résoudre le problème d'un utilisateur.
D'accord, très bien. Et vous, comment vous avez fait pour intégrer du coup vos connaissances en psychologie cognitive et en neurosciences dans votre pratique d'aujourd'hui?
Je ne sais pas, ça m'est venu un peu tout seul. J'ai toujours aimé communiquer et partager. Je trouve vraiment fascinant le cerveau et les processus mentaux. Et j'ai vraiment adoré ma formation en psychologie cognitive. Et partager ça avec d'autres personnes, c'est toujours vraiment très, très enthousiasmant et excitant pour moi. Et de trouver comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances à des problèmes précis, encore plus dans le domaine ludique. Je ne sais pas, ça m'est venu, pas naturellement, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et du coup, j'essaie de trouver des façons d'exprimer ça, d'approcher ça d'une façon assez ludique aussi pour les personnes avec qui je travaille et approchable. C'est souvent les gens qui viennent de l'académie, qui viennent d'une formation académique, sont parfois un petit peu utilisent des termes compliqués ou c'est pas toujours évident de transmettre, de vulgariser des connaissances. Moi, j'adore ça, c'est de vulgariser et de transmettre cette fascination pour le cerveau, comment il fonctionne et de trouver des applications concrètes à ça. Notamment dans le ludique.
D'accord.
Donc je ne sais pas comment répondre à votre question, mais en tout cas, j'aime beaucoup mon métier.
Vous avez très bien répondu à la question. Du coup, pour la question suivante, lorsque vous travaillez sur un jeu vidéo, comment se passe concrètement la démarche centrée utilisateur ?
Concrètement, c'est un peu le bazar dans le jeu vidéo. Mais On part du. Donc, on a une idée de game design. Un jeu doit avoir certaines mécaniques. Alors, les mécaniques, c'est comment les joueurs vont interagir avec le jeu. Donc, par exemple, dans Mario, sauter, c'est une mécanique. On va appuyer sur un bouton, ça fait me sauter Mario. Donc, en fonction du jeu, on va avoir différents types de mécaniques. On va avoir différents types de systèmes. Par exemple, dans Fortnite, on a un système de construction. On a un système de confection d'outils. On a un système de combat. Donc, il y a différents systèmes dans un jeu. Et on va commencer par s'assurer de bien comprendre quelle expérience on veut offrir, qu'est-ce qu'on veut offrir aux joueurs, quel genre de quelle va être la boucle de gameplay, comme on dit, et qu'est-ce que les joueurs vont faire dans le jeu, et aussi à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des joueurs très experts dans un domaine, ou est-ce qu'on préfère s'adresser à un public un peu plus large et avoir un jeu un peu plus casual, comme on dit. Donc déjà, on est censé définir l'expérience qu'on souhaite offrir et à qui. Et puis à partir de là, on va commencer à prototyper le jeu. Donc c'est vraiment très long, hein, de faire un jeu, il y a plein d'étapes. Mais dès qu'on a quelque chose de concret, dès qu'on a un prototype qui est fonctionnel, il n'a pas besoin d'être joli, hein, mais parfois c'est très rêche ce qu'on a au départ, on va tester les différentes fonctionnalités avec des joueurs qui font partie de l'audience qu'on essaie d'atteindre pour vérifier si c'est compréhensible. Alors au début, comme c'est assez raide, c'est plutôt de l'utilisabilité qu'on va regarder. Est-ce que les gens comprennent, par exemple, dans un système de confection, est-ce qu'ils comprennent comment ouvrir le menu et arriver, trouver leur recette pour confectionner les choses qui les intéressent. Et puis, plus on avance dans le jeu, plus le jeu est implémenté, plus on va pouvoir tester vraiment l'aspect intéressant. Est-ce que le jeu est intéressant? Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'il est motivant? Ou est-ce que, bon, bah, non, pas vraiment, on a fait le tour assez rapidement et on passe à autre chose. Donc, il y a beaucoup d'étapes. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans le détail, parce que sinon, vous allez me perdre. Là. Je suis partie pendant des heures. Mais il y a pas mal d'étapes différentes et on a différentes méthodologies. Mais l'idée, c'est vraiment étape par étape, on va s'assurer qu'on est bien sur la bonne voie. Et on reste bien sur l'expérience qu'on souhaite offrir, parce que ça, c'est assez dur quand on travaille sur un jeu vidéo, parce que parfois ça prend des années de développer un jeu. Fortnite, par exemple, ça a pris plus de 6 ans à développer. Et au bout de toutes ces années, on peut se fourvoyer un petit peu, on peut se perdre, on peut vouloir rajouter trop de fonctionnalités qui finalement ne vont pas vraiment supporter l'expérience qu'on souhaite offrir dans le jeu. Donc, c'est rester vraiment sur ce qu'on souhaite offrir ou changer de direction si vraiment on voit que la direction à la base n'était pas vraiment viable. C'est ça qui est vraiment difficile quand on travaille dans le jeu vidéo. Et comme on a énormément de corps de métiers différents qui travaillent dessus, c'est coordonner tout le monde, c'est vraiment pas évident.
Très bien. Et par rapport à cette démarche, vous m'avez dit qu'elle n'était pas forcément assez bien intégrée dans la conception des jeux vidéo. Dans quel sens?
Dans le sens que l'approche UX c'est pas quelque chose de commun dans le jeu vidéo. Il y a très peu de studios de jeux qui ont véritablement cette approche de façon systémique dans leur studio. Donc du coup, il n'y a pas vraiment cette structure dont je vous parlais avant, qui est idéalement ce qu'on cherche à faire. Et ça va plutôt être des développeurs et développeuses de jeux, donc tous ceux qui participent à développer un jeu, qui vont travailler dans leur coin et au bout d'un moment, ils vont se réveiller en disant « Ah, bah, peut-être qu'on devrait faire un test utilisateur pour voir comment fonctionne le jeu. » Mais c'est beaucoup trop tard, parce qu'ils se réveillent à un moment où le jeu est déjà bien avancé. Et donc, si on trouve des problèmes très profond dans le jeu ou si t'es mis dans le jeu, c'est déjà trop tard pour faire des changements aussi importants. Ou alors, ça coûterait beaucoup d'argent ou ça demanderait beaucoup d'heures de travail en plus. Donc, c'est ça que je vous dis. En fait, il y a pas vraiment... c'est pas encore bien intégré. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est on se retrouve souvent à réfléchir à « Ah, ben oui, mais les joueurs ne comprennent pas ça. Comment on fait ?» Le problème, c'est qu'ils se posent la question beaucoup trop tard. Au lieu de faire ça dès le départ et d'avoir cette approche centrée sur les joueurs plutôt que d'avoir une approche centrée sur eux-mêmes et ensuite espérer que les joueurs vont vraiment avoir l'expérience qu'ils souhaitent offrir.
Très Très bien. Et du coup, aujourd'hui, bon, vous m'en avez déjà parlé, mais en fait, on parle beaucoup du fait que les jeux vidéo ont beaucoup d'aspects négatifs. Par exemple, les médias parlent du fait que les jeux vidéo rendent addicts, violents. Et du coup, je voulais savoir comment vous faites pour faire la part entre ce que vous devez faire, de ce qui doit être fait pour les utilisateurs et les contraintes envers les commanditaires.
Oui. Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a ce que dit la presse, les médias, et il y a ce que dit la recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la recherche. Parce qu'encore une fois, on est très biaisé et c'est difficile de comprendre un phénomène si on n'a pas une approche scientifique qui est très rigoureuse. Et malheureusement, même certains scientifiques ne sont pas rigoureux eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la communauté scientifique de façon globale. Et quand on regarde de façon globale, on ne retrouve pas en fait de recherche qui vraiment confirme que un jeu vidéo violent va rendre quelqu'un violent dans la vie réelle. On ne trouve pas ça. Et pourtant, il y a eu des décennies de recherches sur les jeux vidéo violents qui ont cherché à démontrer ça. Et non, bah, il se trouve qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent beaucoup plus clairement que quelqu'un va devenir violent plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Et pour l'addiction, c'est encore très débattu aujourd'hui. Les chercheurs ne sont pas du tout d'accord pour dire que le jeu vidéo créerait une addiction spécifique. Les gens peuvent développer une addiction ou une pathologie avec plein d'activités, hein, que ce soit le sport, le sexe, la nourriture, mais on n'a pas de catégorie d'addiction au sexe ou d'addiction à la nourriture dans le DSM, qui est le manuel, si vous voulez, des maladies mentales. Alors que l'OMS a proposé comment ils appellent ça, game disorder, donc un trouble du jeu vidéo, sans vraiment avoir de consensus scientifique pour le moment. Donc c'est assez débattu.
D'accord.
Après, moi je ne travaille pas dans ce domaine-là, donc j'écoute ce que dit la communauté scientifique. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les jeux vidéo sont super et qu'il ne faut pas réfléchir à l'impact qu'on peut avoir quand on crée un contenu qui va être utilisé notamment avec pas mal d'enfants ou des mineurs sur l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs. Donc c'est deux choses qui sont assez différentes. Il y a le côté véritablement scientifique. Est-ce que oui ou non, il y a un véritable problème qui est spécifique aux jeux vidéo et auquel cas, si oui, c'est bien de le définir afin qu'on puisse l'adresser. Pour l'instant, ce n'est pas super clair. Hein. Ce qui semblerait plutôt, c'est que c'est plutôt au cas par cas en fonction aussi de la personne. Hein. Si la personne est en dépression ou s'il y a plein de choses qui se passent à l'école ou ils sont en échec scolaire, souvent, c'est plutôt ces facteurs-là qui vont expliquer qu'un enfant va rentrer dans une pathologie d'utilisation avec un jeu vidéo. Encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est ce que je peux comprendre. Il n'empêche que ça vaut le coup de réfléchir sur qu'est-ce qu'on met en place dans le jeu vidéo, et notamment pour tout ce qui est modèle business. On a le jeu vidéo lui-même, on a le game. Est-ce que c'est fun ou pas fun à jouer? Et après, comment est-ce qu'on le vend, le jeu vidéo, et comment est-ce qu'on tire des bénéfices dessus? Parce qu'encore une fois, ça prend énormément d'argent de faire un jeu vidéo. Le problème, c'est comme aujourd'hui, la plupart des gens préfèrent jouer à des jeux qui sont gratuits, rentrent en place des mécaniques pour essayer de tirer des revenus qui peuvent encourager les joueurs à revenir dans le jeu alors qu'ils n'ont pas forcément envie. On les encourage à payer d'une façon qui n'est pas forcément très éthique, hein, notamment avec ce qu'on appelle les loot box ou les butins, qui sont des. C'est un peu comme les cartes Panini, si vous voulez. On achète un paquet, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. Donc, c'est assez proche des jeux de hasard, hein, comme des jeux d'argent. Sauf que là, on ne gagne pas d'argent. Ce n'est pas comme au casino, on ne peut pas gagner plein d'argent. Mais on peut quand même tomber sur une carte qui nous intéresse ou sur une skin, qu'on appelle ça, un costume qui nous intéresse dans le jeu, qu'on veut avoir pour notre personnage. Et on sait que ça peut être assez engageant, en fait. Comme au casino, on a envie de rejouer parce qu'on a presque gagné. Et comme c'est du hasard, on se dit que peut-être la prochaine fois, on va l'avoir. Et donc ça, on sait que ça peut encourager des gens à payer plus Et ça peut être un problème. Donc, si on utilise ça justement pour encourager les gens à interagir avec la monétisation. Ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre, qui sont du domaine plutôt éthique, mais qui devient aussi des questions de protection de l'enfance. Notamment, les casinos sont interdits aux moins de 18 ans, parce qu'on sait que le cerveau des enfants et des adolescents n'est pas complètement mature. Et c'est jusqu'à 25 ans, hein, le cerveau mature. Donc avant ça, on est un peu plus susceptible, et plus on est jeune, plus on est susceptible de ne pas réussir à se raisonner ou à se contrôler. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on arrive à faire ça très bien, mais en tout cas, plus on est jeune, plus c'est difficile. Donc dans notre société, on protège les mineurs. Donc il y a des questions, il y a vraiment plusieurs questions. Il y a une question vraiment de santé qui doit être réglée par la communauté scientifique pour savoir exactement ce qui est problématique ou pas. Après, on a des questions d'éthique et on a des questions de protection des mineurs.
D'accord. Et vous, comment vous vous positionnez en tant qu'UX stratégiste face à ces mécaniques qui se rapprochent de l'utilisation de dark patterns?
Ouais. Alors les dark patterns, c'est quand on conçoit une interface ou un système qui va bénéficier surtout le business au détriment de la personne. Par exemple, on vous incite à cliquer sur un gros bouton et vous n'avez pas vraiment lu ce qui se passait et vous pensez que juste vous allez payer, valider votre panier et payer. Et en fait, si vous ne regardez pas les petites lignes, on vous souscrit à une souscription et vous allez vous en apercevoir que plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern. C'est ce qu'on n'a pas vraiment voulu faire ça et on se fait un peu piéger par l'interface. Quand on a une approche UX, on est clairement contre les dark patterns. Parce qu'on défend l'utilisateur. Alors, bien sûr qu'il faut que le produit soit rentable. Hein. Si ce n'est pas rentable, il n'y a plus de produit. Donc, personne ne bénéficie de plus rien. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Mais jamais on met le business au devant de l'utilisateur et encore moins au détriment de l'utilisateur. Donc, c'est clairement quelque chose dont on se positionne contre l'utilisation des dark patterns. Après, dans le jeu vidéo, il y a des moments où ce n'est pas toujours clair. Un jeu vidéo va manipuler les gens, par définition. On va créer des frustrations qui sont par design, même pas juste les jeux vidéo, hein, les jeux de façon générale sont là pour mettre des obstacles et que ce soit amusant d'aller à l'encontre de ces obstacles et de gagner. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que, par définition, un jeu vidéo va créer des frustrations qui sont nécessaires pour rendre le jeu intéressant. Mais là où il faut qu'on se penche à la question, c'est est-ce que ces frustrations servent le jeu ou est-ce qu'elles servent la monétisation? Si on prend l'exemple des lootbox ou des butins, là on utilise une mécanique qui est les récompenses à taux variable. On sait que quand on a des récompenses à taux variable, comme dans les casinos, souvent on est plus engagé. Alors c'est pas systématique. Hein. Si vous aviez votre salaire à la fin du mois, vous tiriez les dés pour savoir combien exactement vous allez avoir, vous seriez pas très content parce que vous avez besoin d'un salaire précis pour pouvoir vivre. Mais dans certaines situations, ça peut être engageant et on a envie de rejouer, de relancer les dés, etc. Si ça sert le business model, donc si c'est vraiment une idée de casino, on fait ça pour inciter les gens à racheter des lootbox et des butins, c'est pas la même chose que si ça sert le gameplay. Y a quasiment aucun jeu qui n'utilise pas des récompenses variables. À chaque fois que vous avez un jeu où il faut lancer des dés ou tirer des cartes, on utilise ces récompenses à taux variable. Si vous faites double 6, ah, vous êtes super content parce que vous avez fait un super score et donc vous avez une super récompense. Donc quasiment tous les jeux utilisent ça, sauf les échecs, et encore même aux échecs on tire au sort qui va jouer en premier au début. Donc quand ça sert le gameplay, ça, pour moi c'est ok. On a quand même besoin d'utiliser ce genre de mécanisme pour rendre un jeu intéressant. Mais là où ça va pas, c'est si ça sert la monétisation. Donc c'est pour ça que dans le jeu vidéo, c'est un peu plus nuancé, parce qu'encore une fois, par définition, un jeu vidéo
va créer des frustrations. Tout le but, c'est de justement créer des émotions chez les joueurs et qu'on ait des obstacles. Et quand on les remporte, on est content, etc.
D'accord. C'est intéressant ce que vous me dites. Et du coup, à la fin de votre livre, notamment, vous parlez des jeux sérieux et de la gamification. Selon vous, quelles sont les limites de ces concepts ?
C'est aussi un vaste domaine. Moi, je trouve ça très intéressant d'apprendre en jouant. Et on sait que dans beaucoup de cas, c'est plus efficace. Apprendre en faisant est souvent plus efficace que d'apprendre en lisant ou en regardant un documentaire. Et le jeu peut être plus engageant que simplement une interaction avec un logiciel. Donc, il y a des approches qui sont intéressantes. Et le jeu peut vraiment être intéressant à utiliser. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de gamifier ou de ludifier simplement en regardant en surface comment fonctionne un jeu, et ils vont simplement se focaliser sur les récompenses, les buts et les récompenses, en se disant, bon, voilà, ça, si on rajoute des points ou des badges, ça va suffire pour rendre cette interface et cette interaction ludique. Non, en fait. Un jeu, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, il y a des récompenses dans les jeux, mais en général, ces récompenses sont intéressantes parce qu'on a envie, je sais pas, de débloquer quelque chose qui nous intéresse. Et pour débloquer ça, on va devoir accumuler certaines ressources ou monter en puissance, on va level up. Mais la récompense est intéressante parce qu'on a un but, on a un objectif, et que cette récompense nous permet d'avancer vers cet objectif. Si on n'a pas ça dans les logiciels qui cherchent à ludifier, bah ça fait très gimmick, c'est pas vraiment nécessaire et ça n'améliore pas véritablement l'engagement. Donc il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans le jeu, notamment pour apprendre. Le jeu offre un retour immédiat sur ce qu'on fait, donc on peut se tromper, recommencer, et on peut recommencer autant de fois qu'on veut, ça fatigue personne, donc on peut pratiquer. Si le jeu est bien fait, ça peut être effectivement très engageant, on a envie de se dépasser. Donc il y a plein d'aspects positifs dans le jeu vidéo, mais un bon jeu vidéo est extrêmement difficile à faire. Donc en plus, on doit y rajouter un objectif éducatif ou de santé, c'est quand même pas si simple à faire. Et beaucoup de gens foncent là-dedans sans forcément se rendre compte à quel point c'est difficile à faire. Donc, c'est ça un peu la limite de la gamification comme on l'utilise aujourd'hui, c'est se focaliser simplement sur des récompenses et ne pas prendre en compte toute la mesure de la difficulté de faire un jeu vidéo engageant.
Et selon vous, comment on pourrait surmonter ces limites que vous venez de me citer ?
C'est compliqué, en fait. Il faudrait aussi avoir une approche UX centrée sur le jeu quand on développe ce genre de choses. Alors, je travaille pas que dans le jeu vidéo, je travaille en dehors du jeu vidéo, notamment pour des logiciels éducatifs ou des logiciels de santé, comme je ne sais plus trouver le mot en français. Comme j'habite aux États-Unis, j'utilise les mots en anglais plus régulièrement. Mais tous les logiciels qui nous aident, par exemple, à faire des exercices physiques tous les jours ou à prendre nos médicaments. C'est faisable, mais ça demande des efforts. Ça demande un budget, ça demande des efforts. Et c'est pas toujours évident d'essayer de s'orienter là-dedans si on n'a pas suffisamment de temps ou de budget pour faire ça. Donc faut se donner le temps, faut comprendre, prendre la mesure de la difficulté de la tâche et mettre toutes les chances de se compter. Souvent, faut embaucher un game designer, par exemple. Moi, je connais des gens qui veulent ludifier. Des aspects, que ce soit éducatif ou autre, mais qui n'embauchent pas de game designer. Donc, ils s'imaginent, y a beaucoup de gens qui s'imaginent n'importe qui peut faire un jeu, mais c'est assez compliqué en fait d'équilibrer un jeu et de définir les règles et comment un joueur va évoluer dans le jeu. Donc, il faut se donner les moyens en fait.
Et ça me rappelle une question pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre un game designer et un UX designer spécialisé dans les jeux vidéo ?
Oui, absolument. Alors après, en pratique, souvent les game designers c'est quand même un peu au centre de ce qu'ils font, de s'assurer que les joueurs vont
ressentir l'expérience qu'ils cherchent à donner. Donc, les game designers sont très sensibilisés à toutes les problématiques UX design sans forcément avoir de formation spécifique à l'UX design. Mais maintenant, les UX designers ont une formation spécifique. Comme je vous ai dit, en facteur humain et en ergonomie, ils connaissent des lois spécifiques qu'ils peuvent appliquer. Donc, ils sont très complémentaires. Moi, je trouve ça beaucoup mieux si on a un jeu qui est très systémique, qui est assez compliqué. C'est beaucoup mieux d'avoir un ou une game designer et un ou une UX designer parce qu'ils travaillent de façon très complémentaire l'un avec l'autre, plutôt que d'essayer de tout faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être expert dans tout. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont en commun, ils ont des buts en commun, bien évidemment, mais ils ont une expertise différente.
D'accord. Et du coup, dernière question. Que diriez-vous aux futurs UX researchers ou designers qui voudront se lancer dans le monde des jeux vidéo?
Alors, je leur dirais qu'il faut être vraiment passionné dans le jeu, parce que ce n'est pas un milieu forcément facile. Déjà, ce n'est pas un milieu très inclusif encore, malheureusement. Mais si vous aimez les jeux, ça peut être assez excitant de travailler dans ce milieu-là, parce que c'est encore jeune, il y a encore plein de choses à mettre en place et c'est très créatif, ça bouge très vite. Donc voilà, sachez dans quoi vous vous orientez, et si vous faites partie d'une population marginalisée, si vous êtes une femme, assurez-vous de rentrer dans une association ou d'avoir un mentorat avec des personnes du milieu pour vous aider à vous épanouir dans le jeu vidéo, parce que c'est quand même un milieu qui est encore très, très masculin, très, très blanc. Donc, bon, il y a encore pas mal d'efforts à faire pour rendre le jeu vidéo plus varié et plus inclusif. Donc voilà, c'est les deux choses. Il faut vraiment être passionné dans le jeu vidéo, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est un milieu qui est très volatile aussi. Les studios ferment, il y a beaucoup de projets qui sont annulés. Moi, je connais personne qui travaille dans le jeu vidéo depuis plusieurs années qui n'a pas connu un projet qui s'est cassé la figure ou un studio qui ferme. On est régulièrement renvoyé dans le jeu vidéo. Il faut être assez flexible à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des aspects qui sont assez intéressants par ailleurs.
D'accord. Nous arrivons à la fin du podcast. Je tiens à vous remercier, Célia, de m'avoir consacré du temps pour cet échange.
Avec plaisir, merci de m'avoir invitée.
Afin de clôturer ce podcast, je tiens également à remercier nos auditeurs d'avoir écouté le podcast Un poil du X de La Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode s'il vous a intéressé. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets de l'UX, n'hésitez pas à retrouver nos articles de blog sur notre site lagrandeourse.design/blog. Et bien évidemment, les nouvelles cartes des Icebreakers sur notre boutique en ligne.